Et vous écoutiez Try Honesty de Billy Talent, qui est réalistiquement la dernière chanson que vous voulez que j'interprète. c'est rempli de daddy issues puis de lourdeur, cette tune-là. Par contre, c'est pour moi, puis probablement pour quelques-uns d'entre vous, une tune qui a marqué mon enfance. C'était super populaire dans le temps. Puis il y a juste... C'est vraiment, vraiment bien écrit, mais il y a juste un petit bout que personnellement j'adore qui est dans le refrain, qui est... Take on the whole world, fight with the young girls. Fait que tu sais, juste cette opposition-là, je la trouve vraiment cool parce qu'en même temps, tu mets genre l'idée de te battre contre le monde puis d'amener un haut niveau de violence puis de défendre quoi que ce soit ou de quoi. Puis après ça, tu l'illustres avec un combat qui est vraiment, vraiment pas noble, genre limite diabolique de te battre avec des êtres potentiellement plus faibles que toi. La tune est vraiment, vraiment excellente, mais on s'entend quand même particulièrement lourd, là. Ça finit... J'ai pas vérifié avec des interviews de l'auteur ou des affaires de même, mais je suis 95% sûr que ça finit avec un gars qui se suicide. Fait probablement pas la chanson qu'on va interpréter en ce mercredi. Oui, je fais un podcast solo un mercredi pour une raison très simple. Maxime m'a choqué pour le podcast de cette semaine. Fait que je voulais quand même sortir un truc. Puis il y a un sujet que je struggle. Vraiment, vraiment. J'ai de la misère à savoir comment... tourner ma tête autour de ça, puis comment est-ce que j'oriente mes interventions, tous mes trucs. Puis c'est toute l'opposition sur la grossophobie, qui est définitivement un phénomène qui existe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout ce qui serait des préjugés envers les gros, de tout ce que l'industrie du fitness est très, très coupable de faire, qui est de culpabiliser définitivement les personnes obèses ou littéralement les stigmatiser sous de nombreuses formes. Grossophobie, c'est quelque chose qui prend des formes peut-être plus intenses, mais pas nécessairement plus intenses, mais potentiellement grave lorsqu'on parle de grossophobie médicale aussi. Fait que tu sais, des fois, ça pourrait se résumer à « Toi, ta balle, on va te l'ôter si t'allais se tomber encore à terre. » Pardon, le chien vient de prendre, comme fidèle à son habitude, la pire balle qu'il a, fait que là, il vient de dropper ça à terre. Mais c'est potentiellement très problématique en termes de grossophobie médicale dans lequel, tu sais, t'aurais quelqu'un en situation d'obésité qui pourrait se faire attribuer des maladies qui sont pas nécessairement là sous forme de son, juste sous cause de son poids parce que le médecin pousse pas nécessairement plus loin, tu sais. Fait ça, malheureusement, c'est des exemples qui ont été répertoriés de quelqu'un qui avait une réelle maladie ou des réels symptômes de, je sais pas, là, je donne n'importe quoi, mais tu sais, qu'il y a des symptômes de l'autre maladie puis la personne fait juste faire, c'est à cause qu'elle est en surpoids puis qu'elle pousse pas plus loin. Fait ça se répercute par des complications, là. C'est des phénomènes qui ont malheureusement été enregistrés. C'est définitivement quelque chose qui existe. Mais le struggle est pas tant à ce niveau-là. Je pense que n'importe qui a une tête sur ses épaules va dire que c'est pas un phénomène qui est correct, malheureusement. Mais il y a une opposition qui est faite à ce niveau-là que j'ai de la misère à me positionner en tant qu'intervenant, surtout ce qui est perte de gras, parce que ce phénomène-là, puis potentiellement, que vous allez juste me dire, genre, c'est un phénomène qui va un peu se régler de lui-même, de la même manière que on a diabolisé les glucides dans les dernières années, ben, que si tu fais circuler de 10-15 ans, c'était les lipides qu'on diabolisait. Fait que probablement que ce phénomène-là de balancier va juste revenir éventuellement. Mais en ce moment, l'industrie est en train de le porter à un autre niveau qui est carrément, on ne devrait pas parler de perte de gras. Tout le monde devrait s'accepter comme ils sont. Puis personne ne devrait avoir à perdre du poids. Puis ça devient vraiment problématique parce que on défend tellement nos convictions puis nos émotions puis potentiellement nos expériences passées qu'on finit par carrément nier la science autour de ça, qui est l'obésité ou le surpoids prononcé, peu importe comment vous voulez formuler ça, est un facteur de risque de nombreuses maladies chroniques, qu'on veuille ou non. Puis c'est pas le seul facteur, OK? Il y en a d'autres. Il y en a clairement d'autres. C'est un facteur parmi tant d'autres. Dans le sens que je suis pas mal convaincu qu'il y a bien du monde en surpoids qui ont probablement des meilleurs marqueurs métaboliques, qui sont probablement plus en santé que moi, parce que je suis stressé au coton et mon entreprise à peu près non-stop. Fait que ça, c'est probablement un facteur de risque qui est beaucoup plus élevé que bien des affaires, mais le point étant, le surpoids est un facteur de risque définitif de plusieurs maladies chroniques. Puis ce courant-là est tellement en train de pousser dans un extrême qu'on est en train de littéralement dénigrer ça, voire de peut-être potentiellement tomber dans... On répond à la grossophobie par du fit-shaming carrément, ou du fit-phobie, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais comme une haine limite injustifiée. Ben, je ne sais pas à quel point elle est injustifiée parce que c'est un phénomène qui est vraiment, vraiment complexe parce que je pense que, pas que je vais surprendre personne avec ça, mais ce qui va dans l'industrie de l'entraînement, c'est le sensationnalisme, right? C'est la mentalité très, très, très... Il faut que tu inclues ça dans des speeches de vente en grande majorité. C'est l'espèce de mentalité du « nous » versus « eux ». C'est de créer une opposition, de créer une espèce de cri de ralliement d'une force quelconque puis l'opposer à de quoi. Puis je pense que ce cri de ralliement-là du côté de la grossophobie est en train de se faire beaucoup du côté du fit shaming, dans le sens que ça devient beaucoup une incitation envers tous les athlètes de figure, tous les athlètes qui perdent du poids pour compétir dans un sport en disant que c'est pas santé, qu'ils sont tous pas bien, puis toute la patente. Puis c'est ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à positionner. Je vous le cacherai pas, parce que la perte de gras est devenue un sujet qui est limite tabou pour bien du monde. Puis on peut pratiquement plus en parler sans se faire traiter de grossophobe ou se faire dire qu'on encourage l'estime de soi. Puis j'estimais que ma position là-dessus était peut-être pas, je sais pas à quel point elle est différente. J'ai pas fait un survey de tout le monde, mais j'ose penser que ma position là-dessus vaut la peine d'être dite, puis peut-être qu'elle a pas vu. Peut-être qu'elle a absolument pas raison d'être dite, mais je vais vous la partager quand même parce que c'est mon podcast, puis que je fais ce que je veux. Fait que je vais vous la partager quand même, sérieusement, parce que si je peux inciter un spark de cette réflexion, j'oserais spécifier particulièrement chez les professionnels de la santé. J'ose espérer que la discussion pourra avancer là-dessus parce que cette haine-là, la perte de gras, est clairement justifiée. Dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se font introjecter l'idée qu'il faut qu'ils perdent du poids pour être en santé, ce qui n'est pas nécessairement vrai, comme je vous ai dit, parce que la santé, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer la santé, puis ça se peut que dans ta situation actuelle, je lis ça comme petit exemple, OK? Le deuxième papier scientifique que j'ai fait dans ma vie, la deuxième réelle étude, on étudiait les populations autochtones, puis il y a le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires sont vraiment surreprésentées chez cette population-là, entre autres à cause que les habitudes de vie sont pas top-notch. Mais quand tu creuses un peu plus loin, tu te rends compte que, OK, ils fument beaucoup, puis ils prennent beaucoup de fast-food, puis ils font bien rouler les McDonald's, puis toutes ces affaires-là. Quand tu pousses un peu plus loin, tu vas te rendre compte que les conditions de vie sont vraiment, vraiment pas idéales, que la plupart d'entre eux frôlent ou vivent carrément dans la pauvreté, qu'il y a je sais pas c'est quoi le terme, là, c'est zéro dans mes skills puis mes connaissances de base, mais la criminalité, whatever le facteur, comment qu'on mesure ça, là, mais la criminalité est beaucoup plus élevée dans ces régions. Et puis là, je sais que ça me paraît loin comme métaphore, mais reste avec moi une petite minute. Tu sais, quand tes besoins de base sont menacés, potentiellement qui a amélioré ton alimentation, c'est pas ta priorité numéro un pour être plus en santé. Tu sais, puis t'as un peu cette métaphore-là qui va avoir lieu dans beaucoup de cas en termes de... Il y a personne qui est en situation... je sais pas à quel point il y a personne, mais de mon échantillon, puis je veux dire, j'en ai vu du monde, là, ça fait bientôt 12 ans que je suis entraîneur, là. J'en ai vu du monde, puis j'ai travaillé avec des gens en situation d'obésité, puis il y a personne qui est en situation d'obésité parce qu'il aime manger. Okay? La majorité des gens ont des problèmes très sérieux qui doivent être adressés, puis qui souvent sont adressés d'une différente manière. C'est juste que en termes de santé générale, c'est pas nécessairement prioritaire d'intervenir là. Puis ça peut être 100% vrai que pour un individu quelconque, ça peut être pas ta priorité d'intervention. Par contre, de là à dire qu'il faut pas parler de perte de gras puis qu'on va se ramasser à dénigrer vraiment ce que l'individu veut, parce que pour la majorité des... Oui, tu sais, tu peux avoir un objectif de fitness qui est introjecté parce que tout le monde te dit qu'il faut que tu perdes du poids pour être en santé puis que tu assimiles cette idée-là, mais il y a bien du monde que ça va passer par être mieux dans son corps. OK? Puis ça, c'est pas exclusivement injecté par les autres ou injecté par les pairs. T'sais, c'est une question de comment tu te perçois comme individu. Puis là, tu vas ouvrir la parenthèse phénoménalement profonde que nous n'ouvrirons pas aujourd'hui, on va juste l'effleurer de quelle est ta philosophie puis de comment tu approches les questions de la vie. Mais si on ouvre juste une en parenthèse, on y va dans quelque chose qui va être plus humaniste, ben tu vas tomber avec des besoins de base qui sont assez limite dans le sens que tu vas vouloir trouver une quête de sens d'une quelconque manière. Vous avez peut-être déjà pas vu ça, mais un besoin primaire de l'être humain, selon définitivement cette école de philosophie-là, c'est le désir de vivre éternellement, peu importe comment vous formulez ça, via sa progéniture. T'sais. Puis tu peux pas parler de vivre éternellement ou de toute la notion d'être en couple, d'être désirable, ou toute la notion de la sexualité sans parler de comment tu te perçois. T'sais. Puis c'est là que ça devient quelque chose de vraiment intéressant. Ben, ça devient un besoin profond d'améliorer ta perception de toi-même. Puis tu peux aller très, très loin dans un extrême horriblement malsain parce que, puis je vais me prendre comme exemple parce que je pense que je l'ai dit à de nombreuses fois sur un podcast, mais personnellement, la fois que j'ai été le plus lean, jamais eu de six-pack lean. Je suis passé damn close, mauditement broche, mais j'ai jamais eu un six-pack lean, mais j'ai déjà eu un solide four-pack, là. Puis, dans le fond, les deux abdos du haut, puis comme les deux abdos du milieu, là, pour ceux qui connaissent peut-être pas les termes, là, j'ai eu un solide four-pack, puis La fois que j'étais le plus lean, c'était aussi la fois que j'étais le moins bien dans mon corps. Potentiellement à cause de la même idée que je vous ai dit la dernière fois, dans le sens que la santé ou la perception de toi, ça passe par beaucoup de choses. Puis c'est dur d'être bien dans ton corps quand ton mode de vie t'amène à un très haut niveau d'isolation sociale. C'est parce que là, si tu veux être très, très lean, tu n'auras pas le choix de couper les interactions sociales. Ben, je sais pas à quel point tu n'auras pas le choix, mais ça va être définitivement plus difficile. Ça va te demander de couper probablement d'autres activités pour préparer ton repas, pour séduire tes entraînements, pour t'assurer que tu récupères comme du monde, puis d'avoir un mode de vie qui s'enligne potentiellement plus sans nécessairement être, mais qui s'enligne potentiellement plus vers un athlète de physique jusqu'à un certain point. Puis ça devient vraiment, vraiment profond parce que là, je suis encore en train de me perdre avec la parenthèse, mais c'est cette idée-là qui a amélioré son physique. Ça va vraiment aller chercher des cordes hyper profondes dans comment l'humain se perçoit. Puis on n'a même pas ouvert toute la parenthèse du dépassement individuel, puis dans comment est-ce que tu es capable de surmonter les obstacles, puis de tout l'effet que ça a sur ton psy, puis sur ton psychologique, puis sur ton développement de toi-même, puis sur comment tu te perçois. T'sais, si tu es quelqu'un qui a réussi à perdre du poids, c'est un accomplissement, peu importe comment tu le formules ça, c'est une. Au risque de me faire détester par ceux qui font la propagation, ben pas la propagation, mon Dieu, c'est pas la COVID, cette affaire-là, mais ceux qui propagent beaucoup les idées de grossophobie, puis qu'il faut pas perdre du poids à cause que. Ben, pas nécessairement anti-grossophobie, parce que là, je suis en train de décrire les autres, mais ceux qui sont du mouvement anti-grossophobe, ben, tu sais, j'ose croire que c'est quand même un accomplissement, puis que le niveau d'effort qui a été nécessaire, peut-être pas les résultats en soi, mais le niveau d'effort qui est lié à ta transformation, lui, est admirable et soulignable. Puis, tu sais, il y a bien du monde pour qui ça va représenter un accomplissement. Fait que de là à ce qu'on est rendu à des choses pour dire, genre, ah, ben là, vous devriez jamais parler de poids parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment mal à l'aise, il y a certaines personnes que, faut pas qu'ils parlent de ça parce que ça pourrait cacher une maladie, ce qui pourrait certainement être le cas, right? Tu sais, t'as bien du monde qui ont des problèmes de troubles alimentaires ou des problèmes qui vont aller dans cette dimension-là un petit peu, puis je suis vraiment, vraiment pas un expert à ce niveau-là. Mais tu sais, on est rendu à plus parler de poids parce qu'il y a potentiellement des gens qui ont des troubles alimentaires, ce qui, c'est vrai, en fait, là, c'est pas potentiellement. Il y a des gens qui ont des troubles alimentaires, mais tu sais, peu importe comment qu'on va le structurer ça, ces gens-là représentent pas la majorité de la population. Fait que, tu sais, si la personne n'a pas de troubles alimentaires, n'a pas de problème avec ça, est-ce qu'on est vraiment rendu à, je sais pas à quel point on dévalorise en pas y parlant? Puis c'est vraiment une question, all right? J'ai vraiment, vraiment pas la prétention d'avoir la réponse à ça. C'est plus de souligner l'incohérence qui se passe lorsqu'on est rendu à plus vouloir parler de perte de gras par notion de santé, tu sais. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment, vraiment quelque chose parce qu'on se ramasse à carrément nier de la science qui existe, qui est l'obésité ou. Et tu sais, comme beaucoup de choses dans la vie, il y a un degré, là, dans le sens que si tu es légèrement surpoids, ben probablement que ça n'a pas d'impact très, très significatif sur ta santé, c'est un mode de vie actif. Mais tu sais, il va se passer d'autres affaires qui vont être à considérer aussi là-dedans, dans le sens que quelqu'un qui est en situation d'obésité morbide, on va observer dans pratiquement tous les cas une diminution de l'activité physique. C'est pas une condamnation, c'est absolument pas une condamnation. Ça se peut que tu sois très actif, c'est très possible que tu sois plus actif que moi. Mais il se passe quelque chose d'intéressant qu'on appelle la gravité. Puis tu sais, si tu déplaces une charge plus lourde sur une plus grande, sur une distance égale, si je déplace 10 livres versus 20 livres sur une distance égale, ben forcément, l'effort requis est plus élevé, right? Ça demande plus d'énergie déplacée. C'est pas une question de condition physique, c'est vraiment une question d'énergie qu'on déplace sur une distance, tu sais. Puis, il va se passer que ça, forcément, si c'est un effort plus grand de déplacer par rapport à ton poids, ça va demander une meilleure condition physique. Pour avoir un effort. Mettons, moi, je donne des chiffres, je donne des chiffres, là, restez pas collés ces chiffres, mais tu sais, monter les escaliers ou aller marcher avec le chien, je vais peut-être rouler à 30, 40, 50% de ma VO2, peu importe. Tandis que si j'aurais un 50, 100 livres de plus, ben là, juste la même activité, promener le chien dans le quartier, on parle d'un 70, 80% de ma VO2, si ma VO2 n'a pas suivi mon gain de poids, ce qui est jamais le cas, parce que potentiellement, la VO2, tu peux l'exprimer en absolu ou en relatif, là, mais souvent, on va, en fait, pas souvent, mais l'utilité principale de la VO2, c'est lorsqu'on va l'expliquer en relatif. On va diviser par le poids de l'individu. Fait que si la personne est en surpoids, potentiellement, que sa VO2 augmente pas, pour la même masse, il faut qu'elle ait une VO2 plus grande parce qu'on divise par le poids, right? Fait que c'est hautement problématique lorsqu'on tombe dans des affaires comme ça. Puis la conversation sur la santé et le poids, on peut pas vraiment l'ouvrir sans parler de tout ce qui est du fit, est-ce que c'est possible d'être obèse et en santé? T'sais, c'est absolument possible d'être obèse et en santé dans le monde. Puis on sait ça depuis les années 80. Fait que, bon Dieu de merde, si t'es une des personnes qui fait la promotion du mouvement anti-grossophobe, puis qui est genre, faut arrêter de parler ça parce que si, c'est ça, puis on peut être en santé en étant obèse. T'es comme, oui, OK, darling, on sait ça depuis fucking les années 80. C'est pas une surprise pour absolument personne. Ben, pas personne qui a étudié et qui connaît le sujet. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important d'arrêter de taper cet argument-là comme si c'était une fucking révélation. Puis de se concentrer sur la question scientifique qui, à mon humble connaissance, on n'a pas de réponse en ce moment, qui est oui, tu peux, puis là, ça va ouvrir toute la porte de comment tu mesures la santé. T'sais. Puis très, très souvent, ces études-là sont basées sur des dosages hormonaux ou certains marqueurs ou prédicteurs de santé, genre ton cholestérol ou whatever. T'sais. Puis là, on va prendre une personne qui est en surpoids, puis après ça, on fait une prise de sang ou on prend un marqueur quelconque, puis on regarde si ses valeurs sont normales, puis si ça rentre dans la santé. T'sais. Puis ça, c'est absolument possible de l'être dans le moment immédiat. La question, c'est est-ce que c'est possible de le rester? Ou est-ce que c'est une transition vers un état qui potentiellement est pathologique si tu es en surpoids, limite obésité? Est-ce que tu peux être en santé dans le moment actuel? La question, c'est est-ce que c'est un état qui est maintenable ou pas? Puis à mon humble connaissance, OK, il n'y a pas de preuve scientifique là. Il n'y a pas de preuve scientifique solide. Ça se peut que cette littérature l'ait changé, mais j'ose croire que je l'aurais vu passer. Moi, j'espère que j'aurais vu passer si ça aurait changé, ça se peut que. Mais à mon humble connaissance, il n'y a pas d'étude qui statue clairement là-dessus. Puis la littérature actuelle semble tendre vers ça se maintient pas tant, qu'éventuellement, ça va mener vers un mode de vie qui va être sous-optimal. C'est pas tant le poids en soi, mais c'est le mode de vie que ça va amener ou les habitudes du poids qui vont mener à forcément, pas nécessairement forcément, mais qui vont augmenter tes chances d'avoir une maladie chronique quelconque. Fait que, tu sais, cette conversation-là est très, très, très touchée lorsqu'on commence à nier toute cette situation-là qu'il faut pas perdre de poids, qu'il faut pas parler de poids pour la santé parce que c'est juste faux. Il y a définitivement une dimension de santé qui est à considérer là-dedans. Puis, en même temps, tu veux pas que cette conversation, tu veux absolument pas. Ça, c'est vraiment, vraiment important que cette conversation-là vienne pas au détriment de la santé psychologique. Okay? Si tu veux pas perdre de poids, puis que tu es bien dans ton corps, puis qu'il n'y a pas de prix, que tu es en surpoids, puis que tu es bien, awesome, man. Impose-toi pas une diète, fais-le pas. Il n'y a personne qui devrait. Il n'y a personne qui devrait, de manière plus ou moins consciente, se faire forcer dans un processus de perte de poids, incluant, j'estime, les cas médicaux. Okay? La personne devrait prendre un choix conscient et éclairé. J'ose croire qu'on vit dans une société qui est relativement libre. On a fait le choix au Québec de traiter de manière universelle tout le monde. Ça inclut les gens qui sont peut-être plus en contrôle nécessairement de leur sort, puis qui ont, mais pas nécessairement qu'ils sont plus en contrôle, mais que leurs actions ont déterminé leur état de santé. Je pense à toute la parenthèse des fumeurs, mettons, dans le sens que, tu sais, puis là, encore là, c'est une conversation qui va venir extrêmement compliquée parce que tu ouvres toute la porte à la dépendance, puis on sait en termes de santé publique, puis c'est absolument pas mon domaine encore, mais on sait que ça marche pas bien ben de criminaliser les drogues en termes de traitement, tu sais. Faut que tu le traites comme une maladie un peu plus, puis tu veux pas nécessairement criminaliser la maladie, tu veux aider à avoir une espèce de coussin social qui héberge ça, right? C'est ça qui semble avoir le plus de trucs. Puis criminaliser, ça a pas nécessairement d'impact. Ben, je sais pas à quel point ça a pas d'impact par rapport à ça serait quoi ton contrôle, tu sais, ça serait quoi ta condition normale, mais c'est probablement pas la solution idéale, right, en termes de drogue. Fait que t'as définitivement cette métaphore-là dans le sens que si t'es plus en contrôle, ben là, oui, ça se peut que ça mène à des états de santé qui sont problématiques, mais on a fait un choix de société qui on va traiter tout le monde de manière universelle et ce, indépendamment de leur revenu, de leur niveau social, parce que toute l'idée de la dépendance aussi, il y a bien, ben, pour garder la parenthèse des fumeurs, puis potentiellement la parenthèse du poids aussi, il y a bien plein de déterminants psychologiques, il y a plein de déterminants environnementaux en dessous de tout qui vont faire que, ben, tu sais, no shit, les gens dans les quartiers plus défavorisés ont tendance à avoir des moins bonnes habitudes de vie, tu sais, pour la même raison que j'étais là. Fait qu'on part pas nécessairement égal là-dedans. T'sais. De la même manière que pour une raison X, les niveaux d'anorexie sont plus élevés chez les jeunes femmes de familles riches. Fait que, tu sais, là, il y a d'autres déterminants là-dedans. Qui, ben, à mon humble connaissance, OK, j'espère que Closet écoute pas ce podcast-là, puis elle me dit, qu'est-ce que tu dis, mon sale? Mais, tu sais, à mon humble connaissance, une étude que j'avais lue, puis partez pas en couille là-dessus, ça se peut que j'ai tort, mais je suis pas mal sûr que le niveau d'anorexie était plus élevé chez cette espèce de modèle familial-là, que ta famille est riche, potentiellement à cause que. Hey, je connais pas ça, j'ouvrirai pas cette parenthèse. Mais vous comprenez mon idée, right? Dans le sens qu'il y a d'autres déterminants qui fait qu'on part pas tout égal, que ce soit obésité, que ce soit cigarette là-dedans. Fait que ça vient une conversation qui est horriblement dure de saisir, mais est-ce que la solution devient à littéralement stigmatiser la perte de poids? Est-ce que la solution, ça devient littéralement d'arrêter de parler de perte de poids en tant que professionnel, j'ose espérer, de la santé ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on est vraiment rendu à nier un facteur de risque, la santé cardiovasculaire, pour d'autres raisons qui pourraient ou non être valables? Je pense que je vais vraiment juste vous laisser avec cette parenthèse-là, cette question-là, puis juste réfléchir à la portée. L'idée, c'est pas de vous dire quoi penser. L'idée, c'est de réfléchir vraiment à la portée que cette discussion-là peut avoir, parce que je pense que ça devient vraiment, vraiment plus grave que les entraîneurs, définitivement, qui sont coupables de culpabiliser les personnes en base, là, littéralement, en disant « Vous êtes pas en santé, vous allez mourir, vous nous coûtez cher, vous remplissez le système de santé, quoi que ce soit. » Versus, définitivement, l'autre extrême, où est-ce qu'on a littéralement un « Si vous parlez de perte de poids, vous êtes des grossophobes. » Tu sais, puis ça devient vraiment difficile de se situer là-dedans. Est-ce que la solution, c'est de stigmatiser la perte de poids? Personnellement, je pense pas, mais je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Fait qu'on vous laisse avec la fin de la chanson « Try Honesty » de Billy Talon pour un autre podcast solo. Tout le monde, à une prochaine fois.